Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins.
Maxime?
Oui, Guillaume, c'est bien mon nom.
Je vis un grand deuil.
Ben oui, ben, je vois qu'il y a quelque chose de changé, mais je suis pas sûr de saisir c'est quoi qui se passe.
Je pense que je comprends pas, Maxime.
Ben ici, je viens de te dire que je comprenais pas, fait que tu saisis bien ce que je dis.
C'est probablement quelque chose auquel tu peux vraiment te rattacher. Je sais que...
Les saucisses?
Non. Tu sais bien que je suis végétarien.
Ben, ils en font des saucisses végétariennes.
Maxime, sois sérieux une seconde.
Mais je sais pas de quoi tu parles, Guillaume.
Ça fait si longtemps que tu peux pas t'en séparer. Ben moi, ça m'a quitté. De manière impromptue.
Le végétarisme?
Maxime, j'ai dû faire cette coupure dans ma vie.
Ça fait déjà un bout de tes circoncis, fait que j'imagine c'est pas ça.
Une coupure différente. Une coupure qui fait moins mal. Mais qui fait beaucoup plus mal à l'ego. Maxime, j'ai recommencé à me faire carter.
Hein? Bah oui, mais t'as pas l'air vieux.
J'ai pas l'air vieux. J'ai rasé ma barbe, Maxime.
Ah oh ben, maintenant que tu le dis, je le vois. Il y a comme plus de brun autour de ta bouche.
Oui, je le sais. Ça me rend tellement malheureux. Mais en même temps, très heureux.
Mais pourquoi t'as fait ça? Je veux dire, si ça te rend si triste que ça. Je veux dire, moi, la dernière fois que je me suis vraiment rasé au complet, j'ai fait une vidéo sur la tune My Heart Will Go On. Fait que je comprends un peu ce que tu vis.
Oui. J'aime beaucoup la phrase qui dit sur Internet, il y a un mot pour appeler les hommes qui ont pas de barbe, on appelle ça des femmes. Puis là, ben, c'est bien de valeur, mais je me sens un petit peu plus femme en dedans de moi parce que j'ai dû me raser la barbe. J'allais passer une entrevue, Maxime.
Ah ouais?
Ça te permet de faire ta blague dans l'entrevue préférée.
OK. Allez, préparez-vous dans 3 secondes.
On va la répéter, OK?
OK.
J'allais passer une entrevue.
Ah ouais? Ça va passer dans quel journal? C'est comme une entrevue, c'est une interview.
Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que ça me dérange. Puis en même temps, non. Je trouve ça cool parce que j'ai un emploi. J'ai décroché l'emploi après cette entrevue. C'est arrivé mardi le 25. Ouais, mardi 25, j'allais passer une entrevue. Mercredi le 26, on m'appelait pour me dire « Salut, on a besoin de toi dans telle école. Si tu veux commencer demain, tu peux commencer avec nous autres puis aller jusqu'à la fin de l'année. » J'étais comme « Hey, cool, malade. »
Fait que t'as travaillé aujourd'hui.
Oui, j'ai travaillé aujourd'hui le 27. Là, ce que je trouve un peu malheureux dans cette histoire-là, c'est que j'en perds ma barbe un peu.
perds mes batteries.
Ce qui est plate, je pense, c'est que c'est comme tabou un peu, la barbe. Alors que ça devrait pas. Tu sais, quelqu'un qui a une barbe très, très propre, ben lui va aller passer une entrevue, puis il va la garder, sa barbe, tu comprends? Mais le moindrement que ta barbe est pas parfaite pile poil... Mais c'est mettre valeur, mais probablement qu'on va te traiter de pas propre à cause de ça. Je trouve ça dérangeant parce que ma barbe, je trouvais quand même qu'elle était, ben, moyennement garnie, qu'elle était,
non, elle était
pas si mal propre.
Oh, elle était assez, elle était bien velue.
C'est ça.
Du calibre B, mettons, B+, peut-être.
Il y a juste les joues. Tu sais, les joues, moi, ça pousse pas tant que ça. Fait que ça fait comme un favori très, très mince, très, très fin, qui vient pas garni, qui vient pas broussaille le moindrement, qui est comme un cheveu de bébé. Si on veut, ça peut te donner une image.
Ouais,
là.
Ben j'imagine mes courtes pointes. Je me dis que, ouais, je vois le genre de poil.
Fait que c'est ça. J'ai dit, ben, je peux pas garder ça parce que ça vient que ça frise un petit peu. C'est pas très, très beau. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais me débarrasser de ça. Fait qu'il me restait juste un beigne. Puis m'a dire une chose, Maxime. Un beigne, c'est lettre en tabarouette. Mais juste les Arabes puis Brian Gionta que ça leur fait bien un beigne.
C'est vraiment, ça prend un certain calibre de charisme et de forme de visage pour réussir à porter un beigne okay, sans avoir l'air d'un vieux pédophile.
Ce qui fait que je me débarrasse de ma barbe, puis là, je pense que je prononce ces mots dans l'espoir que les gars, on se lève pis on arrête de se laisser marcher ses pieds. Les infirmières aujourd'hui, ils travaillent en jeans puis ils mettent des gilets roses, des gilets bleus avec des pois, des gilets avec des canards pour aller travailler. Mais les hommes, pourquoi on se lèverait pas puis on dirait pas notre barbe, on l'assume puis on travaille avec notre barbe. Hey, c'est rendu qu'au... Moi, je suis allé passer mon entrevue. Je vous dirai pas c'est quelle commission scolaire pour pas que vous allez me traquer sur Internet. Aussi, je vais rester le plus gentil possible avec mon employeur quand même. Je suis resté vraiment surpris, Maxime. Je rentre là, puis Colin, je m'attendais à voir du monde habillé le moindrement propre, là, tu sais, des chemises, des tailleurs.
Comme dans Bref, là, on met notre complet. Le sel qu'on met pour les mariages, les enterrements, puis les entretiens d'embauche.
Exactement. J'arrive là, la personne qui me reçoit, c'est une madame avec un col roulé bleu-gris, puis un jeans délavé.
Ouais, mais je veux dire, en même temps... Elle est dans son travail de tous les jours.
Oui.
Ça doit être une personne qui a accumulé assez d'ancienneté pour avoir le droit de s'habiller comme elle veut.
Oui, mais c'est vraiment weird parce que, tu sais, je vais pas à l'école. À l'école, je sais que ça s'est comme, ça a comme changé. Puis à cette heure, les profs, ils mettent tous des jeans. Puis c'est pas grave. Les éducateurs aussi. Mais là, on s'en va à commission scolaire dans un rôle de ressources humaines. Puis la personne est en jeans. Alors que tu t'attendrais plus à voir quelqu'un en tailleur, par exemple. Puis moi, ça m'a vraiment surpris. Puis j'étais comme, ben c'est vraiment cool que cette personne-là ait pas besoin de se fier à un standard vestimentaire pour porter un uniforme, entre guillemets. Mais là, à l'inverse, moi je m'en vais passer l'entrevue. Faut que je me mette au standard de raser ma barbe.
Mais en même temps, toi, t'essayes de te vendre.
Oui, j'essaie de me vendre.
Ben, c'est, je veux dire, elle, est comme, elle pourrait être habillée en Mickey Mouse, mais... T'as vu la job anyway, là.
Oui, c'est vrai.
C'est que toi, tu vends une image de professionnalisme. Elle l'a déjà gagnée. Fait que c'est quand même normal que si tu veux te démarquer des autres, faut que t'ailles la meilleure image possible.
Ouais, ça me fait penser à mes early years de salon de quilles, où est-ce que mon boss, il voulait pas que j'aille les cheveux longs. Fait là, ben, je me coupais les cheveux à peu près à tous les deux mois. Ouais, c'est vrai.
Ben oui,
je sais que l'employeur a pas le droit de faire ça, mais j'aimais ma job, puis j'avais quand même du respect pour le monsieur. Fait que je le faisais, mais je me suis dit progressivement, elle va revenir ma chevelure. Puis là, aujourd'hui, ben, j'arbore une grande couette, ma foi.
Moi, avoir été dans ta position, je pense que je me serais fait bleacher les cheveux pour que ça devienne mauve pendant les
clairs de lune.
Ah, oh, tu veux pas que j'aille les cheveux longs? Ben, check-moi bien aller.
Check-moi bien.
Les vengeances douces.
J'ai eu une nouvelle job comme éducateur.
Félicitations, c'est vraiment cool.
Ouais, c'est vraiment gentil. C'est ça, ben, ça a coûté cher. Mais je l'assume.
Qu'est-ce que ça a coûté cher? T'as coupé la barbe?
Ça a coûté ma barbe.
Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, si chaque poil valait 1$, t'aurais perdu un peu d'argent et... Tralala.
Chaque poil, il y a à peu près des milliers, voire des millions de poils sur mon visage. Le problème, j'aurais perdu assez fort ce somme. Mais Maxime,
oui.
Parle-moi de ce que tu as fait cette semaine.
Et cette semaine, j'ai fait la même chose que toi en réalité, mais un peu plus. Parce que...
T'as rasé ta barbe.
Non,
pourtant, moi, je vois beaucoup de barbe.
Non, j'ai pas rasé ma barbe.
T'as un nouvel emploi?
Non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait un match d'impro.
Ah! Je la pogne pas.
Ben, toi aussi, t'as fait un... Non, toi, t'as animé.
Non, j'ai animé le match d'impro.
Ouais, mais t'étais au match d'impro.
Oui, j'étais là.
T'as vécu
là,
un match d'impro. Mais c'était pas un match d'impro comme les autres, parce qu'on a joué contre une équipe de France, c'est-à-dire roulement de tambour...
Impro&Co!
Impro&Co. Pas se mélanger avec Impro.net, qui sont ceux contre qui on va jouer plus tard dans la semaine.
Ah! OK, oui.
OK. Puis, mais... Là, nous, on reçoit le message, c'était vraiment coquin. Ils nous écrivent « Ah, aviez-vous prévu un temps de repas avec les joueurs et nous avant ou après le match? » On finit notre match à 21h.
Oh,
je sais pas pour toi, mais
vrai,
moi, j'ai comme pas envie de souper à 21h, mais je sais que les Français, ça soupe tard. Eux autres, des fois, on soupe, il est 10-11h. C'est comme « Non, mais vous êtes malade. »
Oui, je sais, moi, pareil.
Vous dormirez pas.
Moi, je mange à 9h, puis oublie ça, là. Je digère jusqu'à 4h du matin, là.
Ouais, je dis, c'est comme ça, pas de bon sens. Je dis, moi, il y a un ou deux joueurs qui sont là tôt, puis qui pourraient avoir le temps de manger avec vous autres avant le match.
Ouais.
Fait que là, ils disent « Ah, OK, c'est cool, on se rejoint pas trop. » Fait que là, on se rejoint pas trop, puis là, je les ai amenés à l'intuition. L'intuition, c'est plus de 100...
de poutine!
C'est plus de 100 sortes de poutine. C'était ma voix
ça
de...
Ça s'est passé comment?
Ben, là, ils sont arrivés, puis là, ils regardaient notre scène d'impro, puis là, ils glandaient, puis Joseph, j'étais comme, ouais, mais vous comprenez pas que dans genre une heure, c'est la pratique qui commence, puis si on veut avoir le temps de digérer, faudrait qu'on parte là.
Ouais.
À un moment donné, j'ai comme fait activer la machine, on est parti à l'intuition. Puis sur le chemin d'étudiant, j'ai compris qu'il avait déjà mangé à la belle province.
Oh, midi. OK.
Et là, il était comme, on a déjà pris notre poutine. J'étais comme, ah, OK.
Merde.
Mais, à l'intuition, c'est le seul endroit, je pense, dans le monde où est-ce que tu peux prendre ta poutine sur riz.
Hein?
Tu peux faire remplacer tes frites par du riz.
Quoi?
Fait,
Mais c'est donc bien badass. Hey, j'ai jamais... Mais voyons, je suis allé plusieurs fois, j'ai jamais fait ça.
Je sais, ben, parce que c'est comme... Avant, c'était un peu flou sur le menu. C'est pas en gros. Puis je pense à ça qu'ils l'ont même enlevé du menu. Fait qu'il faut que tu sois un habitué pour le savoir. Hey,
mais pour vrai, j'ai tellement le goût de prendre une poutine présentement avec de la salsa sur du riz.
Ben, je dis, c'est malade. Puis pour ceux qui connaissent pas l'intuition, tu peux choisir vraiment de mettre beaucoup de trucs dans ta poutine. Genre du pepperoni, des oignons, des olives.
Des champignons, en veux-tu, en veux.
Il y en a des sortes de riz. Puis il y a aussi 5 sortes de sauces. C'est-à-dire normal, barbecue, au poivre, mexicaine, puis italienne.
Ouais.
OK. Fait que ça, c'est toutes les possibilités. Puis en plus de ça, en plus d'être sur frais, tu peux choisir sur riz. Fait que là, c'est plus écrit sur le menu, mais moi, je le sais. Fait que je le dis à tout le monde. À peu près tout le monde a pris une poutine sur riz parce qu'ils se sont dit, bon, ça va être pas mal moins lourd que sur des frites. Il y en avait un peu une écœurite des frites. Puis, fait cocasse, j'ai oublié pendant un instant, parce que j'étais avec les Français en train de leur conseiller, puis tout, que. Il y avait du fromage dans une poutine.
T'as commandé une poutine?
Ben, j'ai commandé une poutine, mais d'habitude, je dis sans fromage. J'ai pas pensé. Moi, je dis, oh, prends ça. Je prends tout le temps ça. Mais j'ai comme oublié que d'habitude, je demande sans fromage. Fait que là, la moitié du monde est servie. Je pense même le trois quarts. Puis là, je regarde leurs affaires. Je suis comme, hey, tabarnak. Y a du fromage là-dedans? Hors à la course par-dessus les bains, voir la cuisine. Si vous avez fait de ma poutine sublime, et comment je veux pas de poutine sublime? J'étais comme, non, elle est déjà partie. T'es comme, oh non, oui, j'en ai une, je l'ai pas encore faite. J'étais comme, mettez pas de fromage dedans. Donc, finalement, je me suis sauvé la honte de devoir payer deux poutines parce que j'avais oublié que j'aimais pas ça.
Mais quelle histoire!
Puis finalement, les Français ont vraiment trippé.
C'est vrai?
Ouais, ils ont vraiment trippé. Ils étaient, oh, ça ressemble un peu à un risotto, c'est tout fondant.
Ben oui, c'est vrai.
Fait que, ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Il y a un gars qui l'a pris au smoked meat. Il avait jamais mangé de smoked meat de sa vie.
Ah, le smoked meat. C'est à peu près, parenthèse, je suis végétarien, le smoked meat, c'est à peu près la seule viande de laquelle je m'ennuie. Fin de ma parenthèse.
OK, super, on va terminer cette parenthèse-là. Puis, finalement, ouais, c'est ça. Fait que là, lui, il était vraiment content. Moi, j'étais très content. On a pris des petites parce que c'est l'intuition. Des poutines, c'est énorme.
Hey, ça n'a pas de bon sens. Je pense que la petite, pour vrai, tu peux la partager à toi. Là, puis...
la grosse, c'est genre l'équivalent de 4 poutines régulières au Ashton.
Oh, ouais,
pour vrai, ridicule, minimum. Là. C'est vraiment fou. Fait que tout le monde est content. Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que ben moi, vu que je n'aime pas le fromage, ma poutine... ce soir-là ressemblait à ça, OK?
OK.
Fait que sur ma facture, c'est écrit poutine, OK? J'ai pris sublime. Donc, on rajoute dans la poutine pepperoni, ouais. Bacon, ouais. Jambon, ouais. Oignon,
okay.
Céleri,
okay.
Piment,
ouais.
Champignons,
yeah.
Et olives.
Ça fait beaucoup.
Fait que là, il y a beaucoup de trucs dessus. On enlève le fromage, parce que j'aime pas le fromage.
On enlève les frites.
On enlève les frites. Jamais sur riz parce que je trouvais ça plus léger. Et j'ai pris la sauce au poivre.
La sauce au poivre, qu'est-ce que c'est ça?
Là, j'ai du riz avec la sauce au poivre puis plein de viande et de légumes. Puis sur ma facture, c'est écrit poutine. Moi, je trouve ça très drôle. Ben ça n'a aucun fucking rapport qu'une poutine. On revient, il est genre 6h45, 7h. Ça faisait comme une demi-heure que le cours était commencé. On est full lourd. On fait un peu d'exercice. Après ça, on fait le match à 7h30. Tout va bien. Impro Co, il trippe. Il nous donne une bouteille de vin. Fait que finalement, on va à l'épicerie. On court. Ah, on vous a acheté une bouteille de cidre. Alors qu'on avait pas prévu aucun. Puis, on a passé un très bon match. Puis tout le monde était content. Je pense que les Français ont vécu quelque chose de bon et quelque chose d'unique au monde. Parce que du riz, c'est spécial.
Ouais, effectivement, puis non seulement ça, mais aussi nos bandes sont vraiment badass pour ceux qui les ont pas vus puis qui nous ont pas écoutés dans les épisodes précédents. Quand on expliquait nos bandes, c'est comme une forteresse, puis c'est badass.
Ben, moi, si vous voulez comprendre la forteresse, faudrait que vous veniez les lundis à 19h30.
Ah, au patron, salle P2, les pros.
Est-ce qu'on arrête le malaise?
Ouais.
Maintenant que l'Halloween est passé, une seule question brûle au bout des lèvres de nos podcasteurs. Êtes-vous prêts pour la fête?
Ah!
C'est quoi qui t'a fait peur de même?
Ben, c'est à cause que t'as dit « bou ». Ah! C'est comme la vieille blague,
ouais,
là.
Celle-là... c'est l'Halloween!
Ben, c'était pour ça que
c'était
je parlais justement.
C'était l'Halloween!
C'était l'Halloween il y a 2 jours, fait qu'on s'est dit, quel meilleur moment que pour parler de l'Halloween? Hey, on va s'en souvenir comme si c'était un bon vieux souvenir il y a 2 jours.
Ouais! Fait que c'était l'Halloween, on a fait des choses pour l'Halloween, mais pas ensemble.
Non, on a fait des choses séparément.
Ouais.
Pour l'Halloween. Et aimerais-tu que je te raconte qu'est-ce que j'ai fait pour l'Halloween?
J'aimerais ça parce que je sais que d'habitude, t'as des activités de grandeur à l'Halloween.
Oui, ça va avoir fait la troisième année où est-ce que j'ai participé à la maison hantée du Patro Rocamadour. Ouais, c'est le Patro Rocamadour, c'est l'endroit où est-ce qu'on fait nos matchs d'impro, comme on disait il y a quelques instants. Puis, la maison hantée, en fait, c'est une maison hantée un peu différente de toutes les autres maisons hantées.
En quel genre?
Ben, parce que d'habitude, les maisons hantées, tu rentres là, tu fais le tour tout seul. Souvent, il y a comme plein de monde de caché dans le noir. C'est extrêmement noir, puis là, ils te font des sauts, puis là, il y a des faces de dinosaures, puis c'est ben épeurant.
Ça, c'est vrai.
Sauf que les maisons hantées, vu que c'est dans un patro, puis que dans le jour, il y a toutes les... Il y a des garderies, il y a des enfants un peu plus en bas âge, même primaire. Puis il y a aussi des gens avec des déficiences qui peuvent des fois être plus sensibles à des maisons comme ça.
Fait que vous faites ça dans la lumière, puis tout le monde est de bonne humeur.
Non
avec
plus.
Des petits lapins.
Non plus. C'est juste que c'est un peu moins sombre. Fait qu'en okay. général, t'es quand même capable de voir un peu où est-ce que tu vas. Puis c'est guidé.
Okay.
Fait que quand t'arrives, tu pars dans la maison en groupe d'à peu près 9.
Ouais.
9. Puis il y a un guide qui te fait faire le tour de la maison, qui t'explique un peu l'histoire.
Okay.
Fait que la première année que je l'ai fait, c'était un parc d'amusement.
Mm-hmm.
Où est-ce que j'étais un diable qui faisait rouler une roue de la mort. Ouh. Fait que dans le fond, la personne fait faire le tour au groupe. Puis il y a comme plein de petites stations où est-ce qu'il y a des peurs. Des fois, c'est des sauts, des filles qui crient, des gens qui t'attrapent par les pieds. Ou comme là, c'est moi, j'étais un démon qui faisait rouler la roue. Fait que c'est plus épeurant en concept visuel qui te frappe d'en face.
Ouais.
Mais ça marche aussi autant pour des enfants. Fait que c'est un peu moins une maison hantée pour les adultes,
ouais.
si on veut. Mais en même temps... Moi, j'ai pas de trip à me promener puis me faire crier dessus non plus. Fait que je trouve ça quand même un peu plus intéressant parce que c'est un peu plus comme une pièce de théâtre interactive.
Ouais, c'est plus comme une pièce de comment je dirais, une pièce d'horreur qu'une pièce de terreur, mettons.
Ouais, exactement.
Ouais.
Fait que c'est subtil comme différence, mais moi, personnellement, ça vient un peu plus me chercher.
Ben, je comprends.
Puis la deuxième année que je l'ai fait, c'était le camp de la peur. Fait que
Ouh.
Là, dans ça-là, j'étais un des guides. Puis là, j'étais... Comment mon
Est-ce que t'étais Jack Black?
Non, j'étais pas Jack Black, mais j'étais un Black Jack.
Oh, c'est vrai?
Qui jouait au Black Jack avec Jack Black.
C'est vrai?
Non.
Oh.
J'étais juste un enfant qui faisait du scout. Puis là, qui avait perdu tous ses amis dans le camp de la peur.
Okay.
Puis là, mais c'est pas grave, faut quand même qu'on fasse le tour parce que c'est bien beau le cas de la peur. Là, ça doit pas être si pire que ça.
Ouais,
là,
ouais,
je faisais
ouais.
faire le tour au monde. Celui-là, on avait réussi à la faire un peu plus sombre vu qu'on ouais. était supposé comme être à la belle étoile.
Ouais.
Puis là, il y avait des gens qui se promenaient avec un masque de loup avec les yeux qui allumaient dans le noir. C'était quand même très cool.
Ok.
Puis cette année, ça va être encore plus cool selon moi parce que c'est un hôtel. Fait que c'est un hôtel de vampires. C'était un hôtel.
Ah, oh, OK.
Parce que c'est passé, c'était en fin de semaine dernière.
Ah.
Puis, c'est les vampires contre des loups-garous. Puis, là, les gens font le tour de l'hôtel. Puis...
Ça me fait penser à un film, ça.
On retrouvera enfin, bien c'était
bref,
quoi.
Ouais.
Puis, c'est ça. Puis, ce qu'ils ont rajouté cette année, les organisateurs, c'est un côté un peu plus défi... énigme.
OK.
Fait que pendant que les gens faisaient le tour, il fallait que les groupes réussissent à trouver des indices, genre mettons une clé, une hache en plastique, puis des trucs comme ça pour arriver à la fin. Puis s'il y avait tout, ils pouvaient tuer le vampire à la fin puis comme avoir la bonne fin. Puis s'il y avait pas tout trouvé, ben ils pouvaient comme pas s'échapper de l'hôtel. Puis, ben là, c'était comme la moins bonne fin parce qu'il se faisait manger par les vampires.
Bad ending, OK.
Ouais, fait que c'était un concept que j'ai trouvé vraiment cool. Puis, quel rôle que j'ai fait dedans, je sais pas exactement si je peux vous le dire parce que en réalité, on enregistre ça avant que ça ait lieu, fait que je sais pas exactement qu'est-ce que je vais faire, mais j'aimerais bien, j'espère que je vais avoir fait le vampire qui prend son bain. Parce que moi, je trouverais ça très drôle d'être dans mon bain. Je trouve que... moi, en chess, c'était pas un rat.
Oh, ouais, mais moi, j'ai toujours dit, là, un vampire qui se baigne, ben, t'sais, vois-tu, Pennsylvanie.
Pour vrai, je trouve qu'on est fort. On est comme un peu comme Michael Lachance dans nos... Dans nos proverbes et dans nos images, on est vraiment fort cette semaine.
Vraiment, c'est ça King Koch. Mais Maxime, laisse-moi te poser la question suivante. Je sais que toi, pendant très longtemps, t'as été, comme je peux me permettre de le dire, là, assez chicken là, sur bien des affaires, puis très, très anxieux sur d'autres. Puis c'est le genre de truc que je sais que t'aimais vraiment pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie la première année de quand même embarquer dans la maison hantée, alors que je sais très bien que toi, faire des sauts, ou bien t'avais taillé ça pour mourir, là?
Ben, parce que justement, c'est pas une maison hantée qui est basée sur les sauts.
Ok.
T'sais, c'est vraiment plus sur les personnages. Comme cette année-là, je faisais un diable qui roulait une roue, pis à aucun moment où est-ce que je sortais du noir pis je gueulais d'en face des gens.
Ouais, je
jouais un rôle. Fait que c'était plus le côté théâtral qui est venu me chercher que le côté je te fais faire des sauts, parce que comme on le dit, c'est un peu plus de la terreur.
Ouais.
Fait que c'est plus comme un scénario pis des scènes. Fait que c'est ça qui m'a fait embarquer au début. Pis en même temps, la première année, ça faisait comme 3 jours que j'avais une blonde, fait que je me trouvais bien des activités à faire pour rencontrer des gens.
Je comprends. Maxime, je vais te raconter un peu ce qui s'est passé pour ma part à l'Halloween.
Ça m'intéresse pas.
Ok, bon, on va passer à la prochaine chronique.
Ben non, vas-y, okay. C'est une blague.
Cool. Moi, à l'Halloween, je travaillais au salon de quilles, mais c'était le party clair de lune de l'Halloween.
Ben, c'est un clair de lune costumé.
Exactement.
Est-ce que tu y as été costumé?
J'ai été costumé, certain.
Ah ouais, c'est quoi ton costume?
Mon costume, spoiler pour ceux qui
voyagent dans le temps.
C'est ça. C'était la bête féroce.
Non.
Oui.
Pays de nulle part.
Oui,
allons-y, tu vas voir.
Te fais pas de soucis, on est tous partis au pays de nulle part.
Avec Marguerite et la bête féroce.
Sapristi, sapristi. Eh oui, j'étais la bête féroce pendant
mais
la fête de l'Halloween.
Mais comment t'as fait tes poids? Tu peinturais sur le corps, parce que d'habitude, il peut se décoller, ces poids.
En fait, on a fabriqué un corps de bête féroce qui était accroché à ma taille.
Ben, qui est comme gros, là, c'est pas juste...
c'est fucking gros, là. On a fait du papier mâché, la tête, la grosse tête en papier mâché.
Mais comment t'as fait pour travailler avec une tête de papier mâché?
Ok, c'est vraiment badass. Ils ont des ballons géants au Dollarama. On l'a gonflé, on a fait du papier mâché autour de ça, bing bang, bonsoir. Là, j'ai pris la tête de papier mâché, je l'ai mis sur ma tête. On a pris de l'espèce de voilage, si tu veux, qu'on a mis devant mes yeux, comme ça je pouvais voir comme si c'était une mascotte, dans le fond.
Ben, un peu comme le masque de Winnie l'ourson. Quand on
oui,
se
c'est ça,
Winnie,
exactement. J'avais mon gilet jaune qui permettait que je sois de la bonne couleur, les pantalons jaunes avec des pois dessus, puis en arrière, on a pris une espèce de carton qu'on a attaché autour de ma taille, puis qui s'attachait aussi sur mes épaules pour que ça tienne, bien sûr, à laquelle on a attaché une deuxième paire de pantalons en arrière. Comme ça, mes vraies jambes à moi, c'était les jambes d'en avant. Les fausses jambes en arrière, c'était les jambes d'en arrière. Fait que j'étais une bête féroce.
À quatre pattes avec des poids pitottes.
Oui, pitottes, pitottes. C'était vraiment cool. Fait que c'est ça, on a fêté le clair de lune cosmique.
Hey, tu me donnes vraiment le goût de me tricoter un pull de Homer avec un gros H.
Avoue, hein? Si je ne m'abuse, Rosalie faisait le rôle de Marguerite.
Ben, j'espère.
Et Roxane, shout-out à Roxane.
Shout-out à Roxane.
Faisait le rôle de Homer avec
pour
la
vrai?
Boîte de carton, oui.
Mais là, se promenait-tu avec une boîte de carton?
Ben
sur
oui.
Elle?
Oui! Oui! C'est vraiment cool.
Ça, c'est drôle. Mais là, as-tu le pull avec le H en plus?
Hey, j'espère.
J'espère qu'elle l'a eu.
J'espère qu'elle l'a eu, en tout cas. Là,
hey, c'est hot, ça.
C'est vraiment cool. Là. On a fait ça. On trouvait ça vraiment cool, premièrement, comme concept. À la base, je voulais me déguiser en Yu-Gi-Oh! Ça, c'est un costume qui va venir à un moment donné. C'est ça, je vais le faire à un moment donné.
Hey, j'étais voir, là, puis les bras de dueliste, là, ça vaut genre 80$.
Oh, ça vaut cher.
C'est
là,
fucking ridicule. Puis il y en a comme deux modèles.
Oui.
Le deuxième modèle est moins cher, par contre.
Ouais, mais c'est le modèle de 5D qu'il y a sur l'autre.
Ouais, l'autre, c'est le modèle 5D, mais il est assez gros que tu peux mettre tes cartes avec des sleeves.
Oh,
fait que si
okay.
tu veux l'utiliser, t'es mieux de trouver le 5D, mais il est plus rare.
Okay.
Mais il est pas nécessairement plus cher.
OK. Ah, tiens. Ce qui fait que c'est ça. À part de ça, il y avait la fête d'une de mes amies vendredi, ce qui fait qu'on est sorti pour célébrer son 21e anniversaire. Elle est maintenant majeure, cette chère Camille. Shout-out à Camille.
Shout-out à Camille.
Ben, majeure aux États-Unis.
Ben oui, je comprends, parce que là...
Hein, c'est ça.
Le Canada 18.
Puis lundi, ben c'était l'Halloween à l'école, parce que je suis maintenant éducateur à l'école. Fait que je fêtais l'Halloween avec les jeunes.
Puis est-ce que tu...
Ah, t'es malade, j'ai pas mis la bête féroce à l'école. J'ai mis un autre costume que je ne peux pas vous révéler l'identité. Parce qu'au moment d'enregistrer, je sais pas encore c'est quoi mon costume de lundi.
Mais là, tu vas-tu venir à l'impro en bête féroce?
J'espère que je vais venir à l'impro costumé, je sais pas, en bête féroce. J'aimerais ça de venir en bête féroce, mais en fait, je sais pas exactement ce qu'on va faire comme soirée d'improvisation. Il va falloir peut-être l'apprendre ce soir ou dans la fin de semaine à venir. Enfin, bref, Maxime, c'est ça. À peu près ça que j'ai fait pour l'Halloween. Je me suis pris vraiment en retard pour faire mon costume. Au moment d'enregistrer, il est pas encore terminé.
Ben, veux-tu qu'on s'en parle de pas terminer? Parce que moi non plus, je n'ai pas terminé mon costume d'Halloween. Mon plan est de terminer le 30.
Le 30?
Ah ben... Une journée avant l'Halloween. Mais, pour être franc, je l'ai déjà commencé. Puis, c'est Aquaman.
Ouais.
Le nouveau Aquaman des films de DC.
Ouais.
Qu'on a juste aperçu un peu, qu'on ne l'a pas encore vu vraiment en action. On l'a vu à peine, là, OK? Puis, fait que j'étais au Dollarama, j'ai acheté des tôles à biscuits. En aluminium là, okay. Que tu peux genre faire, tu peux genre mouler un gâteau genre
ouais.
En forme de plat de Pyrex là, ouais. Mais c'est de l'aluminium, mais ouais. D'aluminium plus épais que l'aluminium pour fait que j'ai
ouais,
pris
ouais.
Ça j'ai tout passé ma main dessus pour enlever comme toutes les rainures pour
ouais.
Avoir quelque chose d'un peu plus droit. Puis là j'ai, parce que de la manière qu'il marche, lui il y a comme 5 épaulettes d'un bord,
okay.
Puis 2 brassards sur ses avant-bras.
Brassards.
Ben oui, des brassards pour mettre
ouais.
Sur ses bras.
Ouais.
Sais-tu parce que c'est le même nom, même mot que le nom de famille à Steven?
Ouais,
que
tu fais ça même?
J'entends à Steven,
tu fais entendre
brassard.
À Steven, brassard.
Hey, mon Dieu, faudrait faire un Photoshop où est-ce qu'on a Steven sur nos bras.
Sur nos poignets, ça serait Steven du brassard, brassard.
Hey, ça c'est un plat que je voulais faire un vendredi. Je voulais faire des Photoshop de gens avec le... avec des jeux de mots avec leur avec leur face. Genre, le boulevard Christian Hamel, puis je fais juste photoshopper la face à Christian sur le boulevard.
Oui.
Puis Marie-Pierre serait... Lemieux. Avec la face de Marie-Pierre
sur
une pierre, puis des affaires
pleure,
de même.
Ça serait genre une roche pleureuse.
Oui. Mais en tout cas, ça, c'est une autre. Fait que, ben, en disant ça, hey, on devrait le faire. Je pense qu'on
ouais,
devrait faire
ouais.
Ça. Mais bref, fait que. Puis c'est ça. Puis ces trucs sont en métal. Fait que d'où
okay.
L'aluminium. Puis là, je l'ai peinturé avec la peinture en or.
OK.
Puis là, c'est tout découpé à l'intérieur. Puis le dessous est noir. Fait que
okay.
Là, j'ai peinturé du pas du styromousse, mais tu sais, genre du carton mousse.
Ouais, ok, ouais, du foam, là.
Ouais, du foam, comme on dit en bon français.
Mais c'est de la mousse.
Ben, c'est de la mousse, mais c'est pas de la mousse de nombril, c'est pas de
non,
la,
c'est pas de la mousse de bain.
Non, c'est de la mousse de bricolage.
Ouais, ouais.
J'ai pris ça, peinturé en noir, je l'ai collé en dessous, parce que son motif à lui, c'est comme plein de triangles.
Ouais.
Puis là, je trouvais que c'était faisait un peu bizarre. Fait que finalement, j'ai pogné mon pinceau qui restait comme du noir un petit peu dessus, puis j'ai passé ça sur le doré. Puis là, ça fait comme si le doré était un peu usé, puis comme du métal un peu rouillé, si
nice.
On veut. Fait que là, ça flash vraiment. On va mettre des photos de nos costumes
ça
sur
flash,
la...
Ça flash, mais c'est Aquaman.
C'est drôle.
T'as pas dessus.
Mais ouais, fait que c'est vraiment cool. Le premier brassard est fait. Fait que là, puis j'ai deux parties de mon épaulette de fait. Fait qu'il me reste 3 épaulettes, puis un brassard à terminer. Le brassard est déjà découpé et peinturé une première couche.
Mais ils sont déjà terminés à l'heure où on se parle.
À l'heure où on se parle, c'est déjà fait. Mais le 30 au matin, il me reste ça à faire.
OK.
Je me positionne dans le temps. En tout cas, on va mettre des photos sur la page
oui.
Facebook.
On va mettre des photos sur la page Facebook du 17 Avenue des Pins
puis,
pour que vous puissiez voir tout
ouais,
ça.
Parce qu'on va être vraiment beau. Puis Aquaman, lui, la dernière partie de mon costume, il est en chest. Puis il y a genre plein de tatous noirs dessus. Fait que j'ai acheté des feutres non toxiques noirs. Puis dimanche, on va me dessiner tous ces tatous sur le corps.
OK, on, c'est qui?
Cathy et moi.
OK.
Ma blonde et moi.
Puis est-ce qu'elle a un fort?
Non.
Non? Parce que c'est on.
Non, c'est pas le phare à
on. Ah, ok, je comprends.
Les mauvaises blagues aujourd'hui. Mais ouais, fait qu'on va tout me dessiner ça sur le corps. Fait comme ça, je vais pouvoir dormir avec sans que ça parte partout comme du maquillage.
Ouais.
Puis je serai pas à course le lundi matin pour le faire.
Ok.
Puis je vais faire de l'impro en chess.
Ah, nice!
Nice!
C'est vraiment cool.
Cool.
Fait que sur ces sages paroles, je vais dire Aquaman, c'était une lopette avant le nouveau Aquaman.
Yeah.
Chess.
Les fêtes costumées peuvent être bien mélangeantes pour bien des gens. Voici donc nos deux podcasteurs interprétant un sketch humoristique.
Bonjour, je voudrais passer une petite annonce.
Ok.
Il me faudrait un site.
Un site?
Oui.
C'est donc une offre d'emploi?
Ouais, si on veut.
Mais pas si on veut. Vous cherchez quelqu'un qui peut vous faire votre site. C'est une offre d'emploi.
Ah non.
Non?
Non.
Ben si.
Non. Si je veux qu'on me fasse un site, je veux un site.
Ben c'est pareil.
N'importe quoi. Je veux un site prêt à l'emploi.
Genre un site que vous auriez juste à remplir?
Un site à remplir...
Oui, mais le truc de base, mais vide. Vous mettez vos photos, vos articles, vos textes, vos catégories, etc.
Vous voulez que je me mette des photos et des textes dans mon site?
Oui, par exemple, c'est votre site. Vous y mettez ce que vous voulez, là.
N'importe quoi.
Ce serait quoi, votre site?
Ben, un site.
Oui, ok, j'ai compris, mais en termes de contenu, on aurait quoi? Ce serait un site marchand, un site d'information...
Un site classique.
Ok. Pourquoi vous voulez un site?
Pour étendre mon empire.
Ok, donc vous voulez un site commercial?
Ben non.
Ok, peu importe. Vous cherchez quelqu'un qui sait coder, en gros.
Coder?
Oui, quelqu'un qui connaît le code.
S'il n'y a pas de permis, c'est pas super grave.
Bon, on va mettre votre annonce dans informatique.
Informatique?
Oui.
Je vois pas le rapport avec mon site.
Bon, on la met dans quelle catégorie alors, l'annonce?
Ben, on avait dit offre d'emploi.
Oui, mais vous m'avez dit que ce n'est pas pour une personne que vous cherchez.
Bah si, je veux un site.
Oui, mais un site, ce n'est pas une personne.
Vous êtes dingue.
Ok, admettons. Vous avez un texte pour votre annonce?
Cherche site pour étendre empire. C'est un truc du genre.
Putain.
Quoi?
Je viens de comprendre. Ce que vous ne cherchez n'est pas un site.
Bah si, c'est un site.
Ce n'est pas un site, c'est un site.
Mais c'est pareil...
Non, ce n'est pas un site web, c'est juste un site.
Ah oui, moi je veux un site, pas un site.
Bah oui, pour étendre votre empire, il vous faut un site.
Bah oui, voilà.
Donc, on est plutôt dans la catégorie immobilier.
Je vois pas le rapport.
Vous cherchez un bâtiment, un bureau, un terrain pour votre activité.
Je cherche pas un terrain, je cherche juste un site.
Oui, voilà, un site.
Oui, juste un site, pas de terrain.
C'est pareil, vous chipotez.
Non.
Ok. Bon, alors, de quoi avez-vous besoin exactement?
D'un site.
Ok! Pourriez-vous être plus précis?
J'ai besoin de quelqu'un.
Oh, putain!
Quoi?
Je crois que je viens enfin de comprendre. Le site dont vous parlez, c'est un site de rencontre.
Un site de rencontre?
Oui. Genre mythique?
Bah, peu importe.
Bah, comment ça, peu importe?
Bah, si mon site n'est pas mythique, c'est pas grave.
C'était juste un exemple. J'aurais pu dire « adopte un mec ».
Ah oui, là, ok.
Comment ça?
C'est un peu ça, je veux adopter un mec.
Vous voulez adopter un mec?
On peut dire ça, oui.
On va mettre votre annonce dans la catégorie rencontre.
Ah ben, super.
Bon, quel profil recherchez-vous?
Ben, un site.
Ok, allez sur notre site, ce sera plus simple.
Sur votre site?
Oui, pour votre annonce.
Vous avez un site?
Ben oui, évidemment.
Ok, je vous le prends.
Vous prenez quoi?
Ben, votre site. Je cherche un site, vous en avez un, donc je vous le prends, c'est simple.
Oui, mais non, vous pouvez pas reprendre notre site, mais vous pouvez aller dessus.
Dessus?
Oui, sur notre site.
Sur votre site?
Ben oui!
Pour quoi faire?
Pour trouver votre site!
Vous voulez que j'aille sur votre site pour trouver le mien?
Oui!
Vous êtes fou?
Ben non, il y a des milliers d'annonces sur notre site, et il y a peut-être des rencontres pour des sites. Des annonces pour des sites, dis-je.
Des annonces pour moi?
Oui, peut-être, pour des sites.
Donc... Pour moi.
Oui, peut-être.
Bah, pas peut-être. Les annonces pour des sites, c'est forcément pour moi.
Comment ça?
Bah oui, vu que je suis un site.
Vous suivez un site?
Non, j'en ne suis pas un, j'en suis un.
Oui, c'est ça, vous le suivez.
Non, je le suis pas.
J'ai du mal à vous suivre.
Je suis un site et j'en cherche un autre. C'est pourtant simple. Et quand je l'aurai trouvé, je lui dirai de me suivre.
Prenez celui que vous suivez, ce sera plus simple.
Oui, mais pour suivre un site, il faut déjà que je trouve. C'est pour ça que je cherche.
Mais il est où ce site?
Bah si je le savais, je le chercherais pas, hein.
Je parle pas du site que vous cherchez, mais de celui que vous suivez, le premier!
Le premier quoi?
Le premier des deux sites!
Les deux sites!
Oui, c'est celui que vous suivez, celui que vous cherchez. Vous en suivez un, et vous en cherchez un autre, ça fait deux!
Sauf que je ne veux pas deux sites, j'en veux juste un.
Mais s'il ne vous en faut qu'un, pourquoi cherchez-vous un autre puisque vous en suivez déjà un?
Pour en faire mon second.
Votre second?
Oui.
Ben, ça fait bien deux sites.
Ben non.
Si, c'est obligé. Si votre site est le second, c'est qu'il y en a un autre avant, un premier site.
Oui, le premier site, c'est moi, ça compte pas.
C'est vous?
Ben oui. Ça fait 10 minutes que je vous le répète.
Vous êtes en train de me dire que vous êtes un site?
Oui. Et je cherche un autre site pour en faire mon second. C'est pourtant simple.
Ok. Donc là, on a 2-3 sites.
3 sites?
Oui, celui que vous suivez, celui que vous cherchez, et vous-même, c'est ça?
Non, je ne suis personne.
Comment ça?
Je ne suis personne, on est juste eux, moi et le site que je cherche.
Oui, mais vous venez de me dire que vous n'êtes personne. Donc, vous n'êtes pas deux, vous n'êtes qu'un. Vu que vous n'êtes personne, et vu que vous n'êtes personne, vous êtes forcément l'autre. Vous êtes le site que vous cherchez, du coup.
Je suis le site que je cherche?
Ben oui, c'est obligé, c'est logique.
Ah, ben ça se tient.
Ben oui, vous avez trouvé votre site, du coup.
Ah?
Ben oui, c'est vous.
Ah, ben oui. Ah, ben c'est cool, merci. Bye bye.
Au revoir.
Le 17 Avenue des Pins est fier de vous présenter ce segment enregistré en direct de Beauport, en compagnie de Samuel Fillion-Doiron, étudiant en univers social.
Fait que Samuel, tu m'as dit que t'étudiais en quoi déjà?
En enseignement de l'univers social et de l'éthique et culture religieuse au secondaire.
Ok, ouais, ça prend comme deux matières quand tu veux aller en enseignement, si je me trompe pas, à l'université.
Seulement pour ce bac-là, par exemple, la plupart des bacs sont spécialisés sur un seul cours. Okay. Le mien, c'est juste parce que faire un bac juste en enseignement d'éthique et culture religieuse, il y a pas vraiment assez de contenu, pas beaucoup de portes ouvertes. Ouais. Fait qu'il offre vraiment l'univers social pour aller avec. En contrepartie, c'est le bac qui offre le plus d'ouverture en termes de... En termes d'enseignement,
oui. Mais pourtant, moi, je m'étais fait dire que le bac en enseignement de l'univers social, c'était difficile de se placer au départ, parce que les enseignants d'univers social, il y en a beaucoup qui faut fassent de la suppléance beaucoup plus longtemps, par exemple, qu'un prof de français, vu le besoin. Hein.
C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais, hey, si on recule jusqu'à la naissance des baby-boomers, ils vont tous prendre leur retraite. La génération avant eux, ils ont eu de la misère à se trouver un travail. Puis il y a beaucoup de profs qui peuvent étirer, mais à un moment donné, il va y avoir une libération. En ce moment, au primaire, il y a beaucoup de demandes. Je pense qu'il y a un petit baby-boom.
Okay.
Beaucoup de monde qui ont eu des enfants. Puis à un moment donné, ils vont arriver au secondaire, puis je vois pas mal avoir fini mon bac rendu là.
Ouais, mais en tout cas, je te le souhaite bien gros. Parce que moi, ça fait plusieurs années qu'on me dit, comme éducateur spécialisé, les baby-boomers vont à la retraite, tu vas avoir une job, en plus t'es un homme, t'es gâté. Puis malheureusement, je me retrouve dans une situation où ça a été très très difficile de me trouver une job. Heureusement, j'ai fini par y arriver. Mais ça a été très difficile parce que quand ils coupent les emplois ou que les baby-boomers vont à la retraite, ils recréent pas les emplois, ils font juste les supprimer. De toute façon, on n'est pas vraiment là pour parler de ça, on est ici pour parler de ton sujet de prédilection. Je vais te laisser t'introduire toi-même. Je sais que tu avais quelques données statistiques à me donner à propos du 2 novembre, entre autres, pour commencer, avant de rentrer dans le bain de l'action.
Ben oui, tout à fait, parce que ben le petit historien qui est en moi, il a décidé d'aller tout à fait, il a décidé d'aller chercher des dates. Okay. Puis 2 novembre, qu'est-ce qui s'est passé le 2 novembre? Le 40 ans, c'était l'élection de Jimmy Carter à la présidence des États-Unis.
C'est le 40e président américain, Jimmy Carter.
C'était le... Je ne me souviens plus de son... Je pense que c'est le 40e, si je ne me trompe
40e
pas.
40e président?
Je sais pas, c'est plus long. Il a été élu en 76.
Okay.
C'est le président actuellement le plus ancien et le plus vieux. Il a 94 ans, c'est le plus vieux. Il est toujours vivant aujourd'hui.
Toujours vivant, c'est le seul qui est en vie. Okay, ouais.
Ça, c'est le plus vieux à être toujours vivant. À l'exception, puis il y a George Bush, père et fils.
Ouais.
Il y a Bill Clinton, il va y avoir Barack Obama dans pas très longtemps.
Ouais, Barack Obama et le prochain.
Le taux de survie des présidents des États-Unis n'est pas très bon comparé à nos premiers ministres canadiens.
Comment ça?
Ils sont pas mal tous vivants depuis Pierre-Elliott Trudeau.
Ah ouais? C'est vrai?
Pierre-Elliott Trudeau, c'est le dernier à être décédé. Sinon, Mulroney est vivant, Clark est vivant, Campbell est vivante. John Turner est encore vivant.
Ok.
Il est très très vieux, par exemple.
Très vieux.
Jean Chrétien aussi.
Mais en même temps, les présidents américains, ils font comme le mandat de 8 ans. Au Canada, est-ce qu'il y a une tendance à ce qu'ils durent plus longtemps le mandat ou comme plus autour de 4 ans? Parce qu'il peut y avoir des élections au bout de 4 ans, même si c'est minoritaire, on va s'entendre que c'est des élections au bout d'un an et demi.
Mm-hmm. Ben, en fait, à cause de l'uso du pouvoir en général, ça dure généralement pas vraiment plus longtemps. C'est, tu sais, le record en termes de... Tu sais, au Québec, notre record, c'est Maurice Duplessis qui a fait 15 ans.
Okay,
ouais, plus un mandat de 3 ans avec une petite interlude d'Adélard Godbout.
Ouais, quand même. Quand même. Mais Charest doit pas être loin quand même.
10 ans.
10 ans, ouais. 10 ans. Pas mauvais.
Ouais. Sinon, c'est le 12e anniversaire de la réélection de George Bush fils aussi, le 2 novembre.
Oh.
Ok, ouais. 15e anniversaire de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle.
Ok.
Ouais.
Ok.
T'avais pas l'air de le savoir.
Non, pas tout. Pas ok. Tout. Ça a fait en 2001. Y a-t-il une raison particulière ou...
J'ai vraiment aucune idée.
Novembre 2001.
Mais c'est l'UNESCO. Alors,
ouais.
Ils ont toujours des bonnes raisons pour défendre les causes les plus merveilleuses, à mon avis.
Ouais. Mm-hmm. Ouais, absolument. Ça, c'est vrai.
Sinon.
Contente à l'UNESCO.
Sinon, aujourd'hui, 2 novembre, depuis 2008, ça fait 8 ans de ça, c'est la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité.
Ok. Mm-hmm. Ok. Ça, c'est, est-ce que c'est juste à l'échelle canadienne ou c'est
mondial?
Okay.
Mondial.
Ok, je comprends.
Mm-hmm. Ça a été créé par l'Association du droit de mourir dans la dignité. L'originalité.
Le nom est à point. Hein,
le nom est très à point.
Ça, on peut pas dire rien contre ça. Mm-hmm.
Et ça, tu vas être content, Guillaume. C'est le jour des morts aujourd'hui, fait que bonjour des morts.
Ben, pas nécessairement content, mais...
Non, c'est ça. Le jour des morts, tu savais-tu que c'était une fête druidique à la base qui s'appelle le Samhain?
Ok, non, ouais. Je savais pas.
Non, dans le fond, ben, quand il y a eu la christianisation des païens, ben, au lieu de tout démolir ce qui leur culture, ils ont juste conservé leur lieu de culte, ils ont conservé leurs rites, les mêmes, puis ils leur ont dit maintenant, vos rites, vos lieux de culte vont servir à vénérer Dieu. Fait qu'on a gardé la même fête, puis on en a fait une fête des morts. C'était à la fin de l'été. On passe de la saison lumineuse à la saison sombre.
Ouais,
on passe de la vie à la mort, alors...
Ouais, la mort des récoltes aussi.
Ouais, la mort
pas moins.
Tout à fait. Donc, les chrétiens, par contre, eux, ils vont célébrer des messes ou se recueillir sur des tombes, célébrer les morts de l'année. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Mais d'abord, c'est vraiment une fête druidique. Il y a beaucoup de choses qui viennent des païens.
Ouais, ouais, ça c'est mm-hmm. vrai. Il y a toutes sortes de fêtes chrétiennes qui ont été empruntées chez les païens, puis qui ont juste été transformées selon la mm-hmm. mentalité puis la croyance. Mais t'as tout à fait raison. Donc, le 2 novembre, on fête beaucoup d'anniversaires. Si c'est votre anniversaire, laissez-nous votre nom en commentaire. On va vous souhaiter bon anniversaire la semaine prochaine. En attendant, Samuel, tu m'as dit que t'amenais un sujet fort intéressant, un sujet que... duquel je suis quand même informé, puis lequel je vais te tester en termes de questions.
Okay.
Mais tu m'as dit que tu étais un passionné de la guerre, Samuel.
Mm-hmm, tout à fait. Généralement, j'ai fait des projets à l'école là-dessus.
Ok. Mm-hmm.
J'ai fait un travail de session sur la Première Guerre en particulier. La question, c'était quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale. Puis je vais te dire honnêtement, j'ai resté surpris. Parce que, tu sais, la Première Guerre mondiale, le monde dit, c'est 1914-1918.
Ça, c'est les dates
non, c'est ça.
Officielles.
Ça, c'est les dates officielles où que les combats ont éclaté. Et non, il faut reculer 100 ans en arrière pour vraiment comprendre comment ça a fini par se mettre en place.
Oh, ouais, c'est clair.
Ça commence en 1815, la Première Guerre mondiale.
1815,
là, on recule très très loin.
Ok, qu'est-ce qui s'est passé en 1815 particulièrement?
1815, la Révolution française est terminée depuis 15 ans environ. Napoléon, c'est terminé aussi.
Ouais.
Il avait quasiment conquis toute l'Europe, jamais l'Angleterre, jamais la Russie, ça a vraiment pas marché son empire.
Okay.
Là, ce qu'on veut faire, c'est un retour à l'ancien régime, parce qu'il faut comprendre qu'il y a juste en Angleterre, aux États-Unis et en France, mm-hmm. que la démocratie a vraiment plus de triomphes, mais ailleurs, il y a eu des empereurs, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu des empereurs, il y a eu des rois.
Ouais.
Des monarques absolus.
Je suis à penser mm-hmm. aux Turcs qui sont restés avec leurs empires d'assez. assez bagarreurs et tueurs.
On va en parler de l'Empire turc d'ailleurs.
Ouais.
Oui, parce qu'il s'est joint à la guerre.
Ouais, ouais, les Ottomans ont été quand même mm-hmm. significatifs dans la guerre.
On l'appelait l'homme malade de l'Occident. Alors, l'efficacité, on peut en repasser, surtout qu'il n'y avait pas encore vraiment de fusil, il se battait encore à l'épée à cette époque-là.
Ouais, effectivement.
Mais il était là pour bloquer un accès en bas qui était quand même important.
La route des épées était très importante à cette mm-hmm. époque-là. Non?
Oh, oui, tout à fait. Et ce qui se passe en 1815, c'est le Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne, c'est une méthode pour réintroduire l'ancien régime partout en Europe suite aux guerres napoléoniennes.
Ok.
À ce congrès-là, il y a 4 pays qui se réunissent. L'Angleterre, l'Autriche, la Russie et la Prusse.
Ok.
La Prusse, c'est quoi? C'est ce qu'était l'Allemagne avant de devenir l'Allemagne.
Ouais,
c'était un tout petit état, mais très très puissant. Et on va signer le congrès de Vienne en 1815. Sauf que l'Angleterre va claquer la porte complètement à ça, parce qu'elle va dire que ce ne sont que des sornettes et des bêtises.
Ouais.
Et la raison pour laquelle ils vont dire ça, je vais te la lire tout de suite. Je vais te citer l'article 2 de la Sainte Alliance.
Ok.
Oh
okay.
Oui.
Ça, c'est intéressant.
L'Autriche, la Prusse et la Russie, confessant ainsi que la nation chrétienne dont eux et leur peuple font partie, n'a réellement d'autre souverain que celui à qui seul appartient en priorité la puissance. Parce qu'en lui seul se trouvent tous les trésors de l'amour et de la sagesse infinie, c'est-à-dire Dieu, notre divin sauveur Jésus-Christ, le Verbe du Très-Haut, la parole de vie. Leur majesté recommande en conséquence avec la plus tendre sollicitude à leur peuple, comme unique moyen de jouir de cette paix qui naît de la bonne conscience et qui seule est durable, de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs que le divin sauveur a enseignés aux hommes. Ça c'est absolutisme de droit divin, là.
C'est clair, c'est imposition de mentalité, puis de sans contredit, puis sans... comment je dirais ben ça, sans remise en question, sans réflexion personnelle. C'est du contrôle, du mind control.
Totalement. Et le Congrès de Vienne ne va pas juste décréter ça. Si on repense à la géographie de l'Europe, là, mm-hmm. on sait où la Russie se situe, l'Autriche un petit peu à côté, ouais. La Prusse, ouais. avec tous les 39 États allemands de l'époque, parce qu'à l'époque, c'est des petits États. Et là, ils encerclent la France au complet.
Ouais.
Ils maintiennent la France dans un petit blocus à l'est. Y a rien à faire. Le but, c'est vraiment d'empêcher la France de recommencer. Et ce congrès-là, quand ça va se terminer par la Sainte Alliance, dont je viens de citer l'article 2, puis pendant une couple d'années, ça va être relativement calme en Europe, là. Relativement calme dans le sens où il n'y aura pas de guerre entre les pays, mais il va y avoir des révolutions dans les pays. L'unification italienne va se passer à cette époque-là.
Ouais, absolument.
Il va y avoir une révolution contre la monarchie absolue, encore une fois en France,
ouais.
en Grèce. Mais vu qu'on parle de la Première Guerre mondiale, on va parler de l'unification allemande.
Oui.
Ouais. L'unification allemande, ça commence en 1862.
Oui.
Allemagne qui n'est pas Allemagne à cette époque-là, c'est encore la Prusse.
Oui.
Guillaume I, c'est pas un roi, c'est un Kaiser. Mm-hmm. Il va nommer quelqu'un qui s'appelle Otto von Bismarck. Ouais.
Lui là, en parenthèse, là, je pense que c'est mon personnage préféré dans l'histoire de la guerre. Je vais fermer la parenthèse.
Ce gars-là a été un modèle pour Adolf Hitler.
C'est un génie, Bismarck, là, on s'entend. Là.
C'est un très grand génie, puis Hitler l'adorait. Il le cite dans Mein Kampf à plusieurs reprises.
Ah oui, mais je suis bien d'accord. Puis si c'était pas de Guillaume II, je pense que Bismarck aurait réussi à faire émanciper, puis à maintenir des relations saines, entre autres avec la Russie, mm-hmm. mais qui aurait réussi à agrandir encore l'empire allemand de l'époque.
Mm-hmm.
Puis si ça avait pas été de Guillaume II qui a comme fermé la porte d'en face, il aurait pu utiliser son génie pour gagner la guerre, entre guillemets.
Oh, il aurait
peut-être même pas eu de guerre à ce moment-là. En tout cas, je pense que ça serait dessiné autrement, ça c'est sûr.
C'est un débat historique extrêmement, extrêmement grand que de savoir si la guerre était inévitable ou non. Il n'y a pas un seul historien qui s'entend là-dessus. On le sait pas si c'était inévitable.
Non, ça c'est clair. Parce qu'il y avait toutes sortes de facteurs. On s'entend que au niveau géographique, il y avait plusieurs pays qui cherchaient à s'agrandir puis à réunir un peu leurs nations.
Mm-hmm.
Je pense entre autres je vais pas me tromper. C'est-tu les Slovaques qui avaient comme une population qui était très très disparate qui essayait de se regrouper?
Ça va arriver après la Première Guerre mondiale, mais le terme qu'on utilise, c'est les Slaves. Mais ça,
c'est
tous les petits pays d'Europe de l'Est qui sont dominés par l'Empire austro-hongrois. On va y arriver, là.
Ouais.
On va y aller avec l'unification allemande, là. On part sur des chires depuis tantôt. Puis on prend de l'avance, mais il y a des choses à expliquer.
Ouais.
D'abord, Bismarck, lui, ce qu'il veut, c'est sortir les États allemands de la domination de l'Autriche-Hongrie. Ça, c'est vraiment son premier but. Donc là, il y a un problème. Les 39 États allemands sont dominés soit par la Prusse, soit par l'Autriche-Hongrie, soit par le Danemark.
Ouais.
Le Danemark a 3 duchés, dont un, que je connais pas tous les noms des anciens États allemands, mais un d'entre eux contient le port de Kiel, qui est un port qui donne directement sur la Baltique.
Okay.
Fait que ça, c'est vraiment un lieu stratégique. Ah ouais. Là, Bismarck, il dit, faut commencer par eux autres, parce que eux autres, les plus faciles, faut que je sois correct en haut.
Mm-hmm.
Parce que lui, il veut se débarrasser de l'Autriche-Hongrie. Mais là, ce qu'il va faire, là, ça c'est vraiment brillant. En 63, il va dire à l'empereur François-Joseph d'Autriche-Hongrie, il y a un conflit en ce moment parce que le roi du Danemark est mort. C'est le temps, on les kick out, ils embarquent direct.
Ouais.
La guerre, elle dure, même pas un mois. Ça dure à peine un mois, l'Autriche-Hongrie, la Prusse, ils sacrent le Danemark dehors. Mais là, Bismarck, il dit, OK, là, on a travaillé en équipe, fait que, on négocie ça comment, les 3 duchés qu'on vient d'obtenir.
OK.
Bismarck en obtient 2 pour la Prusse. Il donne celui-là qui a le port de Kiel à l'Autriche, sauf que la géographie, ça c'est vraiment le fun. Le port de Kiel est en haut, les deux autres duchés sont juste en dessous.
Fait qu'il l'entoure.
C'est ça.
Il l'entoure.
C'est ça, fait qu'il
l'a rangé. Il l'a.
Ah, mais attends, faut que l'Autriche Hongrie, si elle veut y aller, faut qu'elle passe par le côté. Il faut qu'elle traverse dans la Méditerranée. Hey, faire le tour de l'Espagne, qu'elle passe dans la Manche en avant de l'Angleterre.
Cancel, oublie ça.
Cancel le projet. Ils se sont fait avoir, mais avoir complètement.
Ah, il a pas pensé à son affaire, le François machin. François-Joseph.
François-Joseph. Il a vraiment pas pensé à son affaire, mais hey, ça a marché.
Ben oui.
Qu'il était un gars de même.
Hein. Ben oui, mais ça.
Mm-hmm. Là, 1865, ces traités-là sont négociés. Okay. Mais là, l'année d'après, mais là, Bismarck, il faut qu'il convainque son roi de déclarer la guerre à l'Autriche, parce que là, c'est le temps. C'est le seul pays qui domine encore des duchés allemands. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à son Kaiser, l'Autriche entretient des attitudes révolutionnaires dans le port de Kiel. Ça prend 2 secondes, Guillaume 1, il dit, parfait, on le fait.
On le fait, let's go.
Cette guerre-là a duré 5 semaines. Les 39 états allemands contre l'Empire austro-hongrois, ça a duré 5 semaines.
Ah, bah ouais,
la Prusse a gagné.
Ça a pas été long.
Ça a pas été long.
Non, en même temps, stratégiquement parlant, le niveau géographique était très bien positionné.
Tout à fait.
Puis, je veux dire, il était mené par des génies à la tête de ça, mm-hmm. hein, quelque part. Là.
Ah oui, Bismarck, c'était un très grand génie.
Oui, mais j'ai rien à dire contre lui. Là. Je me souviens, quand j'étudiais la guerre mondiale au secondaire, on parlait toujours de Bismarck comme un génie en disant que si ce gars-là avait continué à négocier comme il le faisait avec les autres pays d'Europe, l'Allemagne aurait été encore plus puissant qu'il n'était après leur leur conquête de l'Alsace puis de la Lorraine par exemple.
Non, oui, tout à fait. Et mais là, avec cette guerre là, on a parlé de la Sainte Alliance il y a à peu près 5 minutes.
Ouais.
Ça vient de voler en éclats là.
Ben oui, c'est clair.
C'est terminé la Sainte Alliance là, ça vient de voler en éclats complètement.
Ben oui.
Là, ils gagnent leur guerre, tous les pays allemands sont unifiés ou pas. Ah non.
Non?
Non. Parce que les Allemands du Sud, les États du Sud, eux autres, l'unification, ça les intéressait plus ou moins. T'sais, ils voulaient leur indépendance de la Prusse, mais ils voulaient rester proches des Austro-Hongrois. T'sais, pas sûr. Là, la stratégie, là, ça c'est ma préférée. C'est vraiment ma préférée, là. Bismarck, c'est ma stratégie préférée. Il va leur dire, bah, regardez, vous autres au Nord, on va s'unifier. Puis vous autres au Sud, vous n'êtes pas obligés d'entrer dans l'Allemagne unie, la Prusse unie, en fait.
Ouais.
Mais si vous vous faites attaquer, on va vous défendre. Mais ça vous engage à rien par rapport à nous. Si on t'offrait, si y a un gars qui veut te taper dessus, pis je t'offre, je te back, pis t'es pas obligé de me rembourser une dette en allant taper quelqu'un après, tu le prends-tu?
Ben, mettons que c'est avantageux, là.
Non, mettons que c'est avantageux, mais. But it's a trap!
Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Faut se poser des questions. Hey, je veux pas te couper court, Samuel, le temps file très très vite.
Ok.
Si on pouvait juste avancer au moment. Parce que là, tu nous as expliqué un peu comment l'Allemagne fonctionnait, l'Allemagne, pis comment la. La Prusse réussissait à gagner du territoire grâce à ça. Tu m'as parlé un petit peu plus tôt de François Ferdinand quand on a ouvert la chronique. Peux-tu me dire en comme une ou deux minutes comment est-ce qu'on peut arriver à François Ferdinand pour qu'on puisse conclure une chronique avec ça?
Ben, dans le fond, sans raconter toute la guerre avec l'Empire Austro-Hongrois, pas l'Empire Austro-Hongrois. Voyons, excuse, je me suis trompé. Avec la France, parce que c'est ça qui s'en vient avec la conquête de l'Alsace-Lorraine, ça va fonctionner à merveille, puis c'est grâce à ça qu'ils vont réussir finalement à unifier toute l'Allemagne. Ben là, l'Allemagne devient première puissance militaire industrielle, tranquillement pas vite, signe des traités, comme par exemple, en 82, ils vont signer la triple alliance avec l'Italie, avec l'Empire austro-hongrois, ironiquement.
Ben oui.
Mais là, la France, elle, faut qu'elle réponde à ça, hein?
Ben oui.
Faut qu'elle réponde à ça. Elle va signer des ententes avec l'Angleterre puis la Russie qui a été laissée de côté. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Encerclement de la Russie. De l'Allemagne.
D'Allemagne, oui.
Puis encerclement de la France de l'autre bord.
Oui.
Grosse tension. Qu'est-ce qui se passe entre les Slaves et les Russes et l'Empire austro-hongrois? Les deux, un veut protéger les peuples slaves, la Russie. L'Empire austro-hongrois veut les dominer. Puis t'as Serbie qui est le troisième joueur là-dedans.
La Serbie et Herzégovine, ça a été comme. Absolument, ça n'avait pas de bon sens. Là.
Ben oui, parce que là, ça c'est un petit événement historique qui est presque pas connu, ce que je vais te dire, mais le gouvernement serbe savait qu'il y avait un attentat qui se préparait contre François Ferdinand. Fait qu'ils ont... Le gouvernement serbe a dit à son ministre serbe, qui était à Vienne, la capitale d'Autriche, va avertir le gouvernement qu'il y a de quoi qui se prépare. Il est allé voir le ministre des Affaires étrangères, le ministre serbe en question, mais pour des raisons qu'on connaît pas, historiquement, les deux hommes ne s'aimaient pas.
Okay.
Ils s'aimaient pas, fait que le ministre serbe s'est contenté de propos ambigus.
Ok.
Et finalement, le ministre des Affaires étrangères a conclu qu'il y a un attentat possible qui se prépare contre le ministre des Finances.
OK.
Fait que, ils font rien. François Ferdinand est assassiné le 28 juin 1914.
puis c'est là, à ce moment-là, que les pays ont déclaré la guerre officiellement, mais on s'entend pour dire que ça faisait déjà un bon moment que c'était enclenché en quelque part, cette histoire-là.
Oui, tout à fait. Par contre, tu dis que le plus drôle, c'est que l'Empire austro-hongrois a dit à la Serbie, regardez, on vous envoie un ultimatum pour ce qui vient de se passer.
Ouais.
Puis eux autres, ils ont mis des conditions totalement inacceptables en se disant, c'est la dernière voie diplomatique, s'ils refusent ça, on a leur raison enfin de le déclarer à la guerre. La Serbie accepte, mon gars. Elle a accepté les conditions. Mais là, François-Joseph, il dit, non, moi, je veux pas que ça marche de même. Fait qu'il a déclaré la réponse serbe insatisfaisante, puis il a déclaré la guerre à la Serbie, mais oublie pas tous les traités qui ont été signés, hein.
Avec tous les traités signés, oublie pas, oublie ça, tout le monde est obligé d'embarquer là-dedans, là.
Tout le monde est obligé d'embarquer là-dedans. Je peux te le dire en termes de chiffres, là.
Ouais.
14 pays européens qui embarquent dans la guerre, avec l'Empire ottoman, l'Amérique latine, la Chine, le Japon, puis l'Italie va rester neutre, elle va pas... Ouais.
Neutre, mais...
elle va rester neutre jusqu'en 1915.
Ouais.
Les USA vont rester neutres jusqu'en 1917.
Ouais.
Mm-hmm.
C'est un peu quand ils sont embarqués que ça s'est comme... Le dénouement s'est approché tranquillement pas vite.
Tout à fait. Parce que jusqu'en 1916... Ben en 1914, jusqu'à la fin du mois d'août 1914, il y avait du bon bombardement. L'armée allemande a été à 25 km de Paris en août 1914.
Ouais.
C'était proche. Il était proche. Finalement, après ça, il y a eu une bataille française qui a été gagnée. Ça a fait reculer l'armée. Puis là, les tranchées se sont creusées. Mais la guerre avance pas. T'sais, dans les tranchées, c'est la vie dure.
Ah oui,
il y a des gens qui sortaient à Noël entre ennemis pour fêter, s'échanger des cigares.
Ouais, exactement.
Et le lendemain,
il retournait... sortirait-tu.
Le lendemain, il sortirait dessus. Là. C'est carrément ça. Mais le pire qui se passe, là, c'est vraiment en 1917 que la guerre finit par tourner. 1917, c'est l'année capitale parce que, un, le gouvernement russe tombe aux mains du gouvernement bolchevique.
Ok.
Le tsar de Russie, c'est terminé. C'est les communistes puis la Russie socialiste qu'on connaît.
Ouais,
qu'on
connaît. Ben
oui. Puis pire que ça, elle signe une paix avec l'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe? Géographiquement, il n'y a plus d'inquiétude à l'est. Ils ont juste à tout s'en aller à l'ouest. Toute la gang.
Ben oui.
Mais les USA qui ont embarqué, ça a vraiment compensé ça. Puis ils avaient toutes leurs ressources avec eux. Ouais. Ils avaient fait beaucoup, beaucoup d'argent.
Puis il n'y avait pas vraiment de menace là, au point de vue géographique. Là. Il y avait juste le Japon qui pouvait être potentiellement dangereux pour eux autres. Mais à part ça, il n'y avait rien de dangereux pour les États-Unis là-dedans. Là.
Non, en effet. Puis eux autres, la raison pour laquelle ils ont décidé de joindre les Alliés, parce que les États-Unis ont toujours une mentalité de neutralité depuis George Washington.
Ouais.
Depuis longtemps. Et vu que l'Allemagne a décidé de faire un blocus à l'Angleterre et de couler tous les bateaux, y compris les bateaux américains,
ça,
ben, les Américains, ils ont...
Le Lusitania, si je me trompe pas, qui a été coulé avec plein de naufragés américains, c'est absolument terrible.
Non, ça a pas été difficile de faire un choix pour les
États-Unis. Non, exactement.
Et... Woodrow Wilson a attendu de se faire réélire pour son deuxième mandat, par exemple, avant de déclarer la guerre. Parce qu'il a été réélu en 1917, là, faut le savoir.
Parce que sinon, tu sais, c'est une chose de t'attaquer à plein de monde, mais quand que t'enlèves la source du revenu du pays, t'as comme pas le choix, là, à un moment donné, de rentrer dans l'action si tu veux avoir ton revenu. Là. On s'entend pour dire que le pays, à base, c'est une puissance puis des ressources.
Non, beaucoup.
Surtout
beaucoup.
À cette époque-là. Là. Mm-hmm. Encore aujourd'hui, c'est ça. Là. Le pays, c'est une puissance avec des ressources. Puis si tu perds tes ressources, ben, c'est plein de valeur, mais il faut que tu gagnes du terrain quelque part. Hey, ça a été super intéressant, Samuel. Mm-hmm. C'est vraiment super intéressant. Si tu veux revenir à un moment donné pour parler de la deuxième guerre ou pour conclure la première guerre...
Oh, il y a tellement de choses à dire. Là, j'ai même pas été capable de tout dire.
Ah non, c'est clair. On aurait eu pour 2-3 jours là-dessus. Je te laisse le mot de la fin, Samuel.
Je pourrais finir avec des chiffres.
Vas-y.
OK, la fin de la guerre. La fin de la guerre. Je les avais notés, là. C'est assez terrible comment ça termine.
Ah oui.
OK, des chiffres. Parce qu'on aime ça, les chiffres. Une guerre de 52 mois, 9 millions de morts, 20 millions de blessés, 4,5 millions de veuves, 8 millions d'orphelins. Les dettes publiques sont multipliées par 6 en France, 10 en Grande-Bretagne, 20 en Allemagne.
Aïe aïe.
Oh oui.
Oh là là.
Et les empires sont terminés, il n'y a plus de monarchie absolue, de droit divin. C'est terminé. Le suffrage universel masculin est déclaré dans beaucoup de pays d'Europe à ce moment-là. La Yougoslavie, la Tchécoslovaquie vont naître.
Ouais.
La Russie va perdre la Finlande, l'Ukraine, la Pologne. L'Empire ottoman est détruit complètement.
Ben oui, c'est clair.
Tout. Ça, c'est... Il reste pas grand-chose. Là. Il lui reste la Turquie, puis sinon...
Ce qui impose aussi à l'Allemagne, après ça, en termes de coupure d'équipement, puis de vol d'équipement militaire, c'est absolument terrible. C'est un peu ce qui a mené à la Deuxième Guerre, là, tranquillement. Pour
ouais, parce que la France est la très grande gagnante de la Première Guerre mondiale. Elle a récupéré l'Alsace-Lorraine qu'elle avait perdue aux mains de Bismarck.
Ben oui.
Elle a gagné un tutorat, en guillemets, sur une partie de l'Allemagne.
Ouais.
Puis qu'au bout d'un certain temps, ils devaient choisir est-ce qu'on retourne avec l'Allemagne, est-ce qu'on reste avec la France ou on demeure neutre. C'est Hitler qui a réussi à les ramener.
Ouais.
Mm. Donc, malheureusement, j'ai pas de temps pour en dire plus parce que le temps file.
C'est bon. Hey, merci Samuel.
Ah, ça fait plaisir.
On se revoit une prochaine fois.
À la prochaine.
Ciao.
Le coucou n'ayant pas sonné cette semaine, le narrateur se trouva, ma foi, dans une situation malencontreuse. Ça conclut l'épisode du 17 Avenue des Pins. Oui.
Le 17 Avenue des Pins est une production puissance maximale. D'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Meunier. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.